Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint.
Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Plus que jamais, en cette époque où les frontières sont fermées, le magazine littéraire de RFI vous propose de voyager dans le monde entier. Ainsi, dans un instant, nous prenons la direction de Cuba, que l'écrivain Thierry Clermont connaît bien et qu'il célèbre dans un livre aussi enthousiaste qu'érudit. Et puis en fin d'émission, nous nous intéresserons aux librairies à l'étranger, qui comme en France et peut-être plus même, souffrent de la crise économique que nous traversons. Philippe Goff, président de l'Association internationale des librairies francophones, sera en ligne de Bruxelles pour nous parler de cette situation. Mais comme promis, on s'envole tout de suite vers les Caraïbes et l'île aux mille couleurs. Bonjour Thierry Clermont.
Bonjour.
Avec vous et votre nouveau livre intitulé Barocco Bordello, nous partons à Cuba, dans les rues de la Havane, pour une promenade dans le temps, dans l'histoire, dans la musique, la poésie. Une immersion dans laquelle nous plonge votre narrateur, visiblement fasciné par cette ville. Est-ce que vous aussi, Thierry Clermont, vous êtes amoureux de Cuba ?
J'ai envie de dire complètement et passionnément amoureux. Passionnément amoureux depuis que j'ai découvert l'île et la ville de la Havane il y a précisément 25 ans. Et c'était comme une espèce de coup de foudre amoureux pour les paysages, pour les personnages, pour l'histoire mouvementée, pour la culture d'une grande richesse, pour la végétation, pour les femmes, pour l'état d'esprit et pour l'île. Je suis un amoureux des îles, je suis un peu atteint de islomanie, comme disait ce bon vieux Laurent Durel. Donc j'y ai trouvé des choses vraiment intéressantes, passionnantes, et donc j'y suis retourné à de nombreuses reprises depuis 25 ans. Entre-temps, j'avais épousé une Cubaine.
Voilà, chercher la femme.
Voilà. Bah exactement, on en vient là.
Et en même temps, Thierry Clermont, vous êtes journaliste, vous voyagez beaucoup de par le monde. Qu'est-ce que vous trouvez sur cette île que vous ne trouvez nulle part ailleurs ?
La question est difficile. Enfin, la question est bonne, c'est la réponse qui va être difficile. D'abord, c'est une île, c'est une petite île. Donc j'ai envie de dire, les îles, quand elles ont cette dimension, c'est une espèce d'ailleurs à la puissance X, où tout était exacerbé, avec une identité nationale et un patrimoine culturel très très riche. C'est le cas de Cuba, mais c'est aussi le cas de l'Irlande, de la Sicile par exemple, ou de Haïti. C'est ça qui m'a séduit, avec un climat particulier, avec une espèce de désinhibition morale de la population, une volonté de défendre son histoire, son héritage, menacé dans un premier temps par le colon espagnol pendant plusieurs siècles, et pendant un demi-siècle par le colon, en tout cas l'occupant américain, jusqu'en 1959, donc à l'avènement de la Révolution. Tout ça m'a séduit, une langue espagnole évidemment, mais qui n'est pas l'espagnol parlé à Madrid ou à Barcelone, une langue particulière qui est notamment alimentée par des mots venus de l'étranger, venus de France, comme le mot chauffeur par exemple, ou venu des États-Unis qui sont voisins. La Havane est une ville qui regarde Miami et qui regarde New York, qui est tournée vers le nord, donc avec beaucoup d'influences et d'échanges culturels qui persistent encore aujourd'hui, mais toujours avec cette volonté du côté cubain de défendre et d'affirmer une culture qui a donné la salsa, le mambo, le cha-cha-cha, des écrivains comme Alejo Carpentier, José de Samalima ou le dissident Reinaldo Arenas.
Oui, alors tous ces personnages que l'on va retrouver d'ailleurs dans votre récit. Oui. On va en parler dans un instant. Juste avant, je voulais savoir si, à l'heure de cette crise sanitaire et économique mondiale, vous saviez, Thierry Clermont, si Cuba avait été durement touché ou pas?
Dans un premier temps, moi je suis toujours beaucoup l'actualité à l'étranger, évidemment, à Cuba en particulier, outre l'Espagne ou la Russie, des pays qui m'intéressent. C'est arrivé la crise de la Covid-19 un peu plus tard qu'en Europe et aux États-Unis. Et immédiatement, évidemment, Cuba a fermé ses frontières, instauré un confinement, peut-être un peu moins strict que ce qui se passe en Asie. Les gens sont habitués quand même à un régime autoritaire. Hein, donc, quand les autorités décident de fermer et de confiner, tout le monde, évidemment, suit et obéit le petit doigt sur la couture du pantalon. Hein. Mmh. Donc, il y a un suivi médical et informatif qui est extrêmement fort, extrêmement présent, par le canal de la radio, de la télé, y compris des réseaux sociaux. Donc il y a quelques dizaines de morts, évidemment, mais comme c'est un pays où depuis 60 ans l'effort médical, les contrôles sanitaires sont extrêmement poussés. Hein, on a tous vu ces photos, en tout cas ces images de médecins cubains, d'infirmiers cubains présents en Europe, notamment en Italie, en Espagne. Voilà, c'est aussi pour le régime un produit d'exportation et une fierté nationale. Voilà.
Donc plutôt des bonnes nouvelles de Cuba à ce jour.
Voilà, pas aussi dramatique que ce que connaît par exemple le Mexique et surtout le Brésil.
Revenons à la littérature et à votre livre, Thierry Clermont, Barocco Bordello, qui est donc composé d'une mosaïque de souvenirs, de rencontres, d'adresses, de livres, de femmes aimées, de musique, de moments historiques, et cela sans aucune règle chronologique ou thématique, où le lecteur, la lectrice, picore, comme si on était en effet dans un grand bazar joyeux et érudit. Quel était votre projet avec cette construction narrative?
Le projet est assez ancien, en fait. Il remonte à une vingtaine d'années. J'étais parti à Cuba sur les traces de Robert Desnos, parce que j'avais appris qu'il avait séjourné une petite quinzaine de jours, à la fin des années 20, et j'avais retrouvé des articles de presse qu'il avait écrit et publié à son retour, donc en 1928, où il parlait aussi bien de politique et de répression de la dictature déjà à l'époque, de musique, que du quartier chinois. Donc si vous voulez, il y a une vingtaine d'années, j'ai retrouvé les principaux lieux fréquentés par Desnos. Donc à l'époque, il avait 28 ans, donc l'hôtel où il logeait, les principaux clubs, les grandes avenues, la promenade du bord de mer, hein, qu'on appelle le Malecón. Et je me suis mis en tête d'écrire un récit où le narrateur, justement, emboîterait le pas de Desnos à La Havane, projet que j'ai entamé, que j'ai rapidement remis dans un tiroir. J'y suis revenu quelques années plus tard, en ajoutant donc au périple de Desnos, qui est revenu évidemment complètement émerveillé par le pays, d'autres personnages, des Cubains évidemment, vivant sur place, mais aussi des écrivains, des peintres ou des musiciens étrangers qui y sont passés, comme Paul Morand, Sartre et Simone de Beauvoir, Federico Garcia Lorca, qui était resté plus de 3 mois en 1930. Comme vous dites, ça forme une espèce de mosaïque, de manteaux d'arlequin bariolés et éclatés, baroques, comme l'indique le titre. Et en fait, pour répondre à votre question plus précisément, la structure narrative s'est imposée assez vite, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas avoir un flux narratif d'une grande fluidité avec de longues phrases. Il fallait des fragments éclatés, mais qui donnent quand même une unité. Cette unité, j'espère, je pense l'avoir trouvée dans une espèce de chant général, d'hymne à Cuba et à La Havane, à travers ses personnages, son histoire, sa culture et les souvenirs que j'en ai rapportés, les souvenirs personnels.
Oui, en effet, donc une traversée, une déclaration d'amour, comme on l'entend depuis le début de cet entretien, et ce fil conducteur sur les traces de Robert Desnos, qui en effet, donc en 1928, est allé à Cuba. Est-ce que d'ailleurs ce séjour lui a inspiré une œuvre, un poème en particulier ?
Hélas, non. J'ai eu beau fouiller, lire et relire le gros volume quarto, qui est très bien fait d'ailleurs. Hélas, non. On trouve mention juste Cuba ou la Havane, ici ou là. Et cette inspiration, il l'a placée dans ses nombreux articles de presse, hein, dont un très connu qui s'appelle Cuba, carrefour de race. Pour lui, Cuba, c'est ce qui l'a fasciné. Hein. C'est ce qu'il dit d'ailleurs, un carrefour de race et d'ambition. Et pour cette musique originale, hein, qui est jugée à la fois sauvage et tendre, c'est les mots qu'il emploie.
Oui, c'est vrai que sur place, Desnos découvre cette musique cubaine, qui est irrésistible en effet. D'ailleurs, vous aussi, Thierry Clermont, vous semblez très sensible à cette musique, à voir la discographie que vous nous proposez en fin d'ouvrage. C'est donc un pays qui s'apprécie aussi, peut-être d'abord, selon vous, par ses chants, ses danses, ses rythmes.
Oui, je pense que ces danses, ces chants, ces genres musicaux n'appartiennent qu'à Cuba. Ils ont été ensuite exportés pour notamment donner la salsa à New York au début des années 70, mais vraiment au moment où Desnos est présent à La Havane, se développe un nouveau genre musical, urbain, mais qui vient de la campagne, qui s'appelle le son, S-O-N, et à l'époque, ce nouveau genre prend une ampleur phénoménale à Cuba, car les artistes, les chanteurs et les groupes enregistrent. Ce sont les grandes maisons de disques américaines comme EMI, RCA, etc., donc qui gravent des 78 tours et qui diffusent la musique à la fois à la radio, sur les gramophones. À l'époque, Cuba est un pays plus développé en équipement radio, par exemple, que les principaux pays européens. Donc des titres comme qui sont devenus des classiques encore aujourd'hui, hein, comme La Grimas Negras ou Ay Mama Inés. Voilà, sont repris par tout le monde, sont chantés, sont adaptés. On l'a vu il y a 25 ans à peu près, avec le Buena Vista Social Club et le succès incroyable qu'ont eu ces papis de la musique populaire cubaine.
Filmé par Wim Wenders, en effet.
Oui, filmé par Wim Wenders, exactement.
Est-ce que vous aimez danser, Thierry Clermont? Et si oui, sur quel morceau en particulier?
Bien sûr qu'on aime danser. Bien sûr qu'on aime danser. Je danse un peu moins, je vous l'avoue, parce que ça fait 3 ans que je suis pas allé à Cuba. Mais il y a vraiment des groupes d'aujourd'hui, hein, pas de musique classique populaire, on va dire. Mais il y a un grand groupe qui est né à la fin des années 60 qui s'appelle Los Van Van, qu'on pourrait traduire par aller, voilà, on y va, on va de l'avant. C'est un groupe d'une quinzaine de musiciens. Donc sur scène, il y a les chanteurs solistes, les choristes, les cuivres, les percussions, le clavier. C'est ce qu'on appelle de la salsa doula pure et dure, avec évidemment des rythmes complètement fous, assez complexes d'ailleurs, assez complexes. Il faut savoir que la plupart des musiciens là-bas ont suivi le conservatoire et savent lire les partitions, et avec des paroles où on parle d'amour, où on parle de politique aussi, où on parle de problèmes sociaux, où on parle de l'exil. Voilà, à mots couverts, avec beaucoup de double sens, mais le public capte évidemment tout ça. C'est pour ça que j'ai rapporté un concert en plein air de ce groupe Los Van Van dans les années 90, il faut voir les gens danser, s'amuser. C'est de 7 à 77 ans, on est là pour se relâcher, transpirer, rire et répondre au cœur de l'orchestre.
Yo soy el poeta de la rumba, soy danzón, el eco de mi tambor, soy la misión de mi raíz, la historia de mi solar, soy la vida que se va. Soy
paso de Changua y el paso de Obatalá, la risa de Yemayá, la valentía de Ogun, la bola o el trompo de Lewa. Yo soy Oba, soy Sire Sire, soy Averi Ñaña Berizú, soy la razón del crucigrama, el hombre que le dio la luz.
Que l'on écoute de la musique cubaine avec vous, Thierry Clermont, dans ce livre qui, je le rappelle, s'intitule Barroco Bordello. Cela me fait penser à Isadora Duncan, que vous citez oui. dans ce récit avec une très belle scène où, alors qu'elle est déjà très célèbre, mais dans un café où personne ne la connaît, elle se met à danser pour les gens oui. qui sont assis autour d'un piano. De la même façon, donc, que l'on va croiser Hemingway, vous le disiez, Sartre et Beauvoir, Garcia Lorca, Leonard Cohen, Anaïs Nin, oui. sans oublier des mafieux, des sportifs, enfin bref, beaucoup de célébrités ont été attirées par Cuba. Et en tout cas, parmi toutes ces grandes figures du XXe siècle, peu de personnes plus récentes, contemporaines. Il y a Leonardo Padura, cet écrivain oui. Cubain qu'on aime beaucoup, mais moins de références plus proches de nous.
Oui, c'est vrai, pour à part les références cubaines, comme vous dites, Leonardo Padura, que je vois régulièrement à Paris ou La Havane, il y a Mario Vargas Llosa, mais c'est vrai que j'ai voulu me limiter à des, on va dire, soit des grands personnages connus, soit vraiment des figures pittoresques. Et c'est pour ça que dans le temps, je ne suis pas allé jusqu'à nos jours, en fait. Je suis pas allé jusqu'à nos jours.
Est-ce qu'il faut en conclure que l'âge d'or cubain est derrière nous ?
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, parce qu'il y a un renouveau à la fois musical et littéraire. Après une espèce de trou générationnel, de creux, il y a de jeunes gens qui ont moins de 30 ans, qui écrivent très bien, qui animent des blogs, qui créent des revues de journalisme et de reportages indépendantes en ligne. Il y a une superbe revue créée il y a 3-4 ans, qui s'appelle El Estornudo, c'est-à-dire littéralement l'éternuement, entretenu donc en ligne par de jeunes reporters qui sont également écrivains. Il y a un jeune homme de 30 ans qui s'appelle Carlos Manuel Alvarez, qui a publié deux livres qui sont absolument superbes. Je crois qu'il y en a un d'entre eux qui va être traduit en français. Il y a un renouveau, ça passe aussi par la musique, avec le rap. Le rap est très présent à Cuba depuis le premier festival de rap qui a eu lieu au milieu des années 90. Donc ça, c'est plutôt rassurant. En revanche, ce qui est inquiétant, c'est à la fois la fuite des cerveaux et le départ de nombreux intellectuels, artistes à l'étranger, parce que désormais, les Cubains peuvent sortir du pays avec un visa, selon leur gré, sans autorisation.
Vous avez l'espoir d'y retourner bientôt à Cuba, Thierry Clermont ?
J'espère bien, parce que cette ville commence à me manquer. Cette ville n'a finalement pas beaucoup bougé, à part l'essor touristique des dernières années, avec le rapprochement cubano-américain entamé en 2014, qui est uniquement un rapprochement diplomatique et pas du tout commercial. Donc l'embargo imposé il y a près de 60 ans par l'administration Kennedy est toujours en vigueur. Donc la ville, non, n'a pas changé. Les gens font toujours la queue pour attendre l'autobus, ils font toujours la queue pour aller dans les administrations. Et là, évidemment, avec la crise sanitaire, la chute des recettes tirées du tourisme est absolument catastrophique pour le pays.
Ce qui, donc, ne vous empêche pas d'avoir envie d'y retourner au plus vite ?
Une grande envie, parce que je m'y sens comme un poisson dans l'eau, tout simplement. Malgré les difficultés, malgré la chaleur, jour et nuit, La Havane est une ville où je me sens bien, où je me sens à l'aise. C'est une ville qui m'est familière. Et c'est une ville qui s'ouvre au monde. C'est une ville qui embrasse la mer, qui l'accueille. Tout converge vers la mer. Il y a peu de grandes villes, de grands ports dans le monde qui accueillent comme ça à bras ouverts la mer. Il y a Marseille, évidemment. Il y a Naples. Et La Havane fait partie de cette ville, j'ai envie de dire, née de la mer. Née de la mer. Voilà.
En tout cas, une ville qu'on a plaisir à découvrir avec vous, Thierry Clermont, à découvrir ses rues, son histoire, sa poésie, sa musique que vous restituez donc dans ce livre Barocco Bordello qui est apparu aux éditions du Seuil. Merci beaucoup de nous en avoir si bien parlé et bon voyage pour Cuba prochainement.
Merci à vous. Hasta luego.
Hasta luego.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Et après notre escale à Cuba, élargissons notre horizon en faisant un tour du monde des librairies. On sait qu'en France, la situation est inquiétante, mais qu'en est-il à l'étranger ? Pour répondre à cette question, nous sommes en ligne maintenant avec le président de l'AILF, l'Association internationale des librairies francophones. Bonjour Philippe Goff.
Bonjour.
Vous avez signé récemment dans Livre Hebdo une tribune où vous tirez un signal d'alarme. Il faut donc comprendre que la crise touche aussi gravement le réseau sur les 5 continents ?
Oui, bien sûr, et je dirais peut-être encore de manière plus importante, dans la mesure où sur les autres continents, les librairies ne disposent pas des mêmes dispositifs d'aide ou de soutien que les librairies françaises ou belges, enfin les librairies des pays du Nord, si je puis dire, sont plus ou moins favorisées par rapport à cela. En fait, il s'agit réellement d'une pandémie. Et en 2 mois, c'est répandu sur toute la planète, donc sur les 5 continents. Et nous avons des librairies sur les 5 continents, précisément, puisque l'AILF regroupe une centaine de librairies de par le monde. Et tous les libraires sont impactés. Alors, de manière assez curieuse, tout le monde n'est pas impacté de la même manière, sauf au niveau économique. C'est-à-dire que les fermetures n'ont pas eu lieu de manière aussi importante partout. Il y a eu moins de librairies fermées en Afrique, par exemple, que dans certains pays du Nord. Mais la crise du Covid est très importante dans les pays du Nord. Donc l'Europe, les libraires européens sont très impactés. En Afrique, où nous avons beaucoup de libraires, bien sûr, l'impact est surtout économique, puisque l'économie s'est arrêtée, c'est bien simple. Alors même si des librairies sont restées ouvertes quelques heures par semaine ou quelques heures par jour, il y a plus de fréquentation. Et le gros problème des librairies, si vous voulez, c'est comme toute entreprise, en fait. Une entreprise qui ferme quelques semaines sans avoir aucune rentrée financière, bon, elle a toujours des frais fixes à assumer. Il y a des salaires, il y a des loyers, il y a l'électricité, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme frais fixes. Et sans rentrer aucune, la situation évidemment est très très compliquée. Et alors je répète que très généralement il n'y a pas de mécanisme d'aide. Le seul mécanisme d'aide qu'on ait eu finalement, c'est l'État français à travers le Centre National du Livre, le CNL, qui a quand même dégagé une enveloppe de 500 000 euros qui a été répartie entre une petite centaine de libraires. Donc ça fait un peu d'argent. Genre, mais ça ne sauve pas des situations réellement.
Oui, en effet, c'est ce que j'allais vous poser comme question, Philippe Goff. Donc 500 000 euros débloqués par le Centre national du livre en France, ça vous paraît insuffisant pour aider cette centaine de librairies concernées partout dans le monde ?
Mais c'est-à-dire que nous sommes évidemment très heureux d'avoir eu cette enveloppe, ça, qui représente quand même 10% de l'enveloppe que le ministère de la Culture français a dégagée en faveur de la librairie. Donc c'est bien de les avoir obtenues. Mais c'est insuffisant, c'est-à-dire qu'il doit y avoir d'autres aides qui doivent être appliquées. Et c'est pour ça que j'ai fait cette tribune, que j'ai écrit cette tribune dans le magazine Livre Hebdo, le magazine professionnel donc du monde du livre. C'est-à-dire qu'il y a d'autres partenaires que les institutionnels. Il y a les éditeurs et les distributeurs qui peuvent faire un effort également. Vous savez que les libraires francophones, donc les libraires à l'étranger, hors France, comment dire, souffrent de pratiques commerciales qui sont un petit peu, qui alourdissent en tout cas leur compte d'exploitation. C'est-à-dire qu'il y a déjà des frais d'importation qui sont très importants. Faire venir des livres de France vers l'Afrique ou vers l'Amérique latine, c'est évidemment très coûteux. Beaucoup d'éditeurs qui pratiquent des pieds de facture, c'est-à-dire qu'ils augmentent, ils imposent des frais supplémentaires sur leurs factures. Il y a des éditeurs qui pratiquent un prix export qui est plus élevé que le prix du livre en France. Toutes ces choses-là devraient changer. Enfin, ce sont des choses que nous demandons depuis très longtemps et nous pensons que la solidarité des éditeurs et distributeurs peut jouer aussi sur ce plan-là.
Donc en effet, vous préconisez trois pistes au moins pour sortir de cette crise. Donc à la fois, vous vous adressez aux éditeurs, aux distributeurs pour que chacun réduise ses marges et peut-être aussi décale les factures de paiement de quelques mois.
Oui, c'est ça. Trois types de mesures que j'ai demandé, que j'ai proposé en tout cas. Donc c'est évidemment la question du transport et des pieds de facture pour qui sont imputés sur les factures des libraires. Il y a également le fait que, une des meilleures manières de réinjecter de la trésorerie dans des librairies, comme dans toute entreprise, c'est de relancer l'activité. Il y a beaucoup d'instituts français, d'écoles, d'alliances françaises, enfin, de médiathèques, de bibliothèques qui sont installées à l'étranger, qui commandent du livre français. Eh bien, nous demandons que ces commandes soient passées auprès des libraires locaux. Parce que si ces commandes passent auprès des libraires locaux, ça réinjecte la trésorerie chez le libraire, mais cette trésorerie, elle remonte vers les éditeurs. Et puis, des éditeurs, elle remonte vers les auteurs également. C'est toute cette chaîne qui doit être rémunérée. Sans vente en librairie, les éditeurs souffrent et les auteurs en amont encore plus. Donc, c'est vraiment une question de solidarité professionnelle, si vous voulez, de solidarité de la chaîne. Nous y tenons beaucoup. Nous pensons vraiment que c'est une des manières les plus logiques, peut-être les plus faciles, puisqu'il existe des budgets. Alors vous citiez la question des échéances. Oui, les éditeurs français ont tous accordé des reports de 60 jours d'échéance. Mais 60 jours, c'est trop peu, parce que si vous répétez le paiement des factures de mars, d'avril à fin juin, si vous n'avez pas eu d'activité en librairie, vous ne pourrez pas plus les payer fin juin que vous ne pouviez les payer avant. Et donc nous demandons des reports supplémentaires, on a demandé 90 jours, et même probablement aussi des plans d'apurement d'ici la fin de l'année. C'est une question aussi très importante parce que nous avons des librairies qui sont au bord de la fermeture, à peu près sur tous les continents. La situation est très difficile partout. En Amérique latine, le confinement est encore généralisé. Le Chili, par exemple, vient de relancer un confinement généralisé. Le Brésil, on sait que c'est une situation tout à fait dramatique. Et on retrouve cette situation partout. Et donc, on a des librairies qui appellent au secours. Alors, puisqu'on a pu leur accorder, une petite subvention de quelques milliers d'euros, il est évident qu'il y a d'autres mesures qui doivent être prises. Et donc, la tribune que nous avons écrite, publiée dans le Livre Hebdo, c'est un peu un appel au secours.
Merci beaucoup, Philippe Goff, d'avoir témoigné sur l'antenne de RFI de cette situation alarmante et dont il faut aussi parler au même titre que le réseau des librairies en France. Et je rappelle donc que vous êtes le président de l'AILF, l'Association internationale des librairies francophones.
Je vous en prie, merci à vous, madame. Merci.
Littérature sans frontières.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet « Podcast ». Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.
Le débat africain.